Europe 1.
22h56 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et nous accueillons Françoise maintenant sur l'antenne. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Olivier, rebonsoir.
Ah, rebonsoir, c'est vrai qu'on s'est eu hier soir, donc vous nous expliquez avoir perdu cet appartement en fait. Alors vous pouvez nous réexpliquer un petit peu dans quelles circonstances vous le perdez cet appartement, parce qu'il y a pas mal de monde qui n'était pas là hier soir.
Oui.
Ce sont sur des fausses déclarations, finalement.
Au niveau du tribunal, si vous voulez, certains avocats, lorsqu'on est absent à un jugement, à une audience, font mine de faire ce qu'on appelle une escroquerie au jugement, c'est-à-dire d'exposer au magistrat, sauf erreur de ma part, des faits et de leur exposer des données qui vont leur permettre de juger, et ce sur les seules assertions de l'avocat présent. Si vous n'en avez pas, que les deux ont déchargé leurs responsabilités, que vous ne savez pas qu'en procédure civil d'appel, il faut obligatoirement un avocat, que la procédure est écrite, etc., parce qu'en fait, aucun avocat ne vous l'explique, eh bien, vous êtes le dindon de la farce. Et moi, je n'ai plus de méticulosité pour m'occuper sérieusement de quelque chose, même de très important, parce que j'ai... Je crois que ma capacité de travail, je l'ai utilisée à 200% toute ma vie, et que maintenant, la méticulosité, il y a eu beaucoup de violence aussi dans ma vie, je ne l'ai plus. Et donc, je me fais avoir alors que je m'en rends compte.
Mais comment vous perdez cet appartement à l'origine ?
Alors, à l'origine, il y a eu des impayés à l'époque du premier confinement. La propriétaire m'a fait parvenir, donc par voie d'huissier, un commandement de payer, ce qui est normal, mais elle a inséré dans ce commandement de payer, commandement à payer, une obligation de produire une attestation d'assurance. Pendant cette période, mais le cas de force majeure me protégeait quand même, je n'avais pas pu, j'étais tellement serrée financièrement, souscrire une assurance, alors que pendant toutes les années précédentes et toutes les années suivantes, j'étais assurée. Et je n'ai pas vu tellement... si vous voulez, il y a un mécanisme psychique qui est l'évitement. Quand vous avez peur d'un papier, que vous vous dites « moi, je ne serai pas à la hauteur, c'est une entité qui me dépasse et qui est tentaculaire, qui va me bouffer », je ne le lis pas. Il y a même des choses extrêmement évidentes, je veux dire des dates, de fournir.
Vous allez me donner toutes ces précisions-là après. On est obligé de marquer une pause et puis on se retrouve après l'info. D'accord, Françoise ?
Oui.
À tout de suite. Il est 23h passées de 11 minutes. Vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, nous sommes là pour vous écouter. Vous pouvez aussi nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Françoise, donc, vous en étiez à m'expliquer de quelle manière vous aviez perdu cet appartement. Vous me disiez que vous n'aviez plus la force et finalement l'énergie de lire un papier que vous recevez. Ce papier contient quoi exactement ?
En fait, il y a eu tellement d'avatars et tellement de rebondissements et tellement d'étapes que ça ne se limite pas à un commandement de payer et le fait de vous demander une assurance. Enfin, autant rappeler à tout le monde que l'assurance est obligatoire pour toute location et que ça, c'est une clause résolutoire qui est fatale. Hein, et que, sauf que là, j'avais le cas de force majeure Covid et ressources asséchées par des circonstances particulières pour moi. Mais celui qui joue à ne pas s'assurer, je lui souhaite bon courage, parce que si ça, ou alors il produit un faux, libre à lui de prendre le risque, mais je conseille à personne de le faire. Mais voilà, rien que pour ça, on peut perdre une assurance. Un avocat de la partie adverse qui veut vous perdre, Il va essayer d'activer toutes les clauses résolutoires qui existent dans les baux. Et il faut tout, avant de signer quelque chose, tous les baux sont à peu près des contrats types, mais il faut lire le nombre de clauses résolutoires qui existent dans les baux. On ne fait pas ce qu'on veut dans un appartement, on n'en fait pas ce qu'on veut non plus. Et tout ça, voilà, c'est des petites choses à rappeler pour tout le monde. Si on peut être pédagogue sans paraître, comment dire... rasoir, il faut effectivement avoir conscience qu'il faut être net de tout, dans tout, pour éviter d'arriver à des situations pareilles. Mmh. Parce qu'il y a eu des tas d'avatars derrière, il y a eu des procédures de surendettement, il y a eu des annulations de dettes parce que j'avais repris des paiements réguliers. Alors ça, déjà, les propriétaires n'aiment pas, parce que évidemment, pendant plusieurs mois, on a été fondé à ne pas payer, puisque toutes les dettes antérieures au jugement de surendettement sont annulées si le juge considère que vos arguments sont pertinents et que vous n'avez rien à vous reprocher sur le plan, qu'il n'y a rien de frauduleux en quelque sorte.
Mais il n'y a rien de frauduleux, mais donc le fait de ne pas s'assurer casse le bail, en fait, si j'ai bien compris.
Sauf si on a un cas de force majeure à invoquer, ce qui était le cas, puisque c'était dans la période Covid. Moi, ce n'est pas ça qui a cassé le bail. Hein. C'est un ensemble de...
Vous ne payez plus le loyer non plus, hein, c'est ça?
Non, mais j'étais fondée. J'ai repris les paiements, puisque sinon la juge du surendettement n'aurait pas annulé toutes les dettes antérieures. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec le surendettement.
D'accord.
Non plus.
Donc,
il y a des gens qui disent « je vais me mettre en surendettement, ça va aider ». Il faut qu'un juge entérine, il faut qu'on soit de bonne foi, hein, que rien ne soit frauduleux, comme pour les faillites commerciales, etc.
D'accord. Donc vous étiez de bonne foi. Malgré tout, le jugement a été contre vous.
Non, en fait, j'ai eu une ordonnance de la juge du contentieux de la protection, oui, qui m'expulsait, mais qui n'était qu'un jugement, qui n'était qu'un titre de première instance donnant lieu à donc la possibilité d'un appel ou d'une opposition, etc. Et cette juge n'a pas agréé la proposition de ma propriétaire, qui était d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'ordonnance. Elle a considéré que ce n'était pas équitable et donc ne m'a fait payer aucune indemnité d'occupation. Voilà une ordonnance du contentieux de la protection extrêmement équitable, qui considère qu'une propriétaire qui demande 50 euros par jour a trop faim et qu'il faut la limiter, lui dire dans ces cas-là, vous n'aurez rien. Madame N ne payera pas, n'est pas fondée à payer même aucune indemnité d'occupation. Alors un propriétaire qui se prend ça dans les dents après le surendettement et le Covid, il a la rage, comme on dit un peu vulgairement. Bon.
Donc comment a-t-elle réussi à vous faire sortir de cet appartement ?
Alors, du coup, tout se passait pour moi. Moi, donc, j'ai fait appel de cette ordonnance du contentieux de la protection première instance. Et je vais voir des avocats, puisque l'avocat est obligatoire en... Alors, déjà, toutes les convocations en première instance, je les ai eues par miracle. Parce que normalement, on doit vous citer à personne. C'est un avocat qui doit venir avec une citation à personne à votre domicile pour vous prévenir que vous devez être présente à telle audience. Moi, j'ai tout eu par mail, sur un ordinateur non protégé par un VPN, qui était truffé tous les jours des insultes, des injures qui venaient de partout, des mots de passe complètement transformés. Voilà, tout ça était... Il y avait un travail de sape énorme, et à partir de cette ordonnance, il y a eu tout un voisinage utilisé pour venir taper dans ma porte, ce qui veut dire, dans leur langage, fout le camp.
Bon. Oui, mais pourquoi, pourquoi ? Vous ne vous entendiez pas avec vos voisins ?
Ah, pas du tout, j'avais de très bons rapports avec mon voisinage, j'ai habité 12 ans ils ont été utilisés par la propriétaire pour me faire déguerpir. parce qu'elle est propriétaire de tout l'immeuble.
Ah oui, d'accord. Donc, elle usait de son influence, sans doute, sur tous les locataires.
Tout à fait. Voilà. Et puis, bon, c'est des amis, c'est des fils d'amis qui sont étudiants. Voilà. Donc, en fait, là, vous êtes pris dans un étau. Après, tant que ce sont des étudiants qui tapent dans votre porte, ils ne vont pas vous casser la tête en morceaux non plus. Bon, l'ambiance est très désagréable et délétère pour l'ensemble de l'immeuble parce que vous allez les trouver et même envoyer des gens qui vont les trouver pour leur dire t'arrêtes ça tout de suite, il est hors de question que ça continue, pas faire peur, pas de violence, mais en tout cas se faire respecter. Donc, à partir du moment où ça en reste là, déjà c'est très désagréable pour la vie de tous les jours, mais ensuite il y a eu quoi ? L'étape suivante, c'était donc l'appel, et là j'ai fait appel à des avocats, c'était obligatoire, et là j'ai vu un peu comment travaillaient les avocats quelqu'un qui a de petits moyens comme moi, qui a l'aide juridictionnelle totale, c'est-à-dire pour un avocat, c'est travailler pour, je crois, 50 euros de l'heure, l'avocat, il se jette dans les bras de la partie adverse et il fait semblant de vous défendre. Alors, il y a des choses dont on se rend compte. On sait qu'il vous dit tout un tas d'inepties qu'il ne faut absolument pas croire. Mais il faut être très, très attentif et quelqu'un qui n'a pas de connaissances juridiques, et moi j'en ai pas énormément dans tout ce qui est privé, il risque de bien se faire avoir par les avocats. C'est pas décrier la profession d'avocat, c'est un constat pour moi, pour mon affaire personnelle. Et donc j'ai eu des faux conseils. Bon, il y a eu ensuite l'appel, l'arrêt donc de cour d'appel. Cet arrêt a été rendu sans que je sois au courant de l'audience. Parce qu'il y a eu succession d'avocats, j'ai remercié un avocat, si on peut dire remercier, qui était en train de m'enfarner sérieusement la tête, qui m'avait même volé l'état des lieux, disant j'ai besoin des originaux, je vais les photocopier, je reviens, etc. Et qui n'avait pas fait un ensemble de procédures qui avaient été convenues. Et comme vous n'avez pas les yeux sur leurs épaules, quand ils envoient le mail à la cour d'appel avec leurs conclusions, en fait, l'huis clos du cabinet et le caractère écrit de la procédure écrite d'appel, quelque chose qui donne libre champ à l'avocat, qui peut ruiner une procédure si vous n'y prenez pas garde. Donc j'en ai pris une autre. L'autre m'a donné. Alors lorsqu'on est arrivé, donc on a eu un arrêt de cour d'appel. Il y a eu succession d'avocats. Le bâtonnier m'avait donc désigné, puisque l'avocat obligatoire, une autre avocate. Et cette avocate, comme je ne l'ai pas constituée, parce que les services sociaux me disaient « Madame N, ne prenez pas d'avocat, vous allez vous faire enfariner la tête », on les a vus à l'œuvre, abandonnés, laissés tomber. C'est une lutte qui va vous épuiser.
Ben oui, mais vous étiez bien obligé de prendre un avocat, ils sont gentils.
Oui, ou alors c'était renoncer à aller plus avant dans la procédure. Alors, j'étais obligée, mais moi, je ne le savais pas, et j'étais de bonne foi. Hein. Ce n'est pas une manœuvre, puisque le bâtonnier vous en désigne un. Le problème, c'est qu'il a beau vous en désigner un, si vous ne le constituez pas avocat, il n'a pas le droit de vous défendre, tout simplement parce qu'il ne vous a pas rencontré, qu'il n'a pas eu votre accord pour ses conclusions et que personne n'a à défendre quelqu'un de force avec des arguments qui ne seront pas les siens. Et donc, cette avocate désignée, le sachant, ne s'est pas présentée et s'est déportée, enfin on ne dit pas se déporter, a déchargé sa responsabilité. C'est-à-dire qu'on a eu une audience incroyable où il n'y avait pas d'avocat, où aucun avocat n'avait de conclusion ou de conclusion valable, puisque le premier, ce qu'il avait fait, était caduque, et où la deuxième avait déchargé sa responsabilité. Pas de citation à venir à l'audience, parce qu'en général, ça se fait par la voix d'avocat, or je n'avais pas d'avocate. Et moi, lors de ce jugement, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu des gens qui se sont arrangés entre eux, à savoir l'avocat de la partie adverse, qui a fait valoir ses seuls arguments, compte tenu de mon absence à l'audience, évidemment, je ne connaissais pas la date, je ne pouvais pas l'inventer. J'ai fait divers courriers à la Cour d'appel au Premier Président pour demander la date d'audience. Je n'ai jamais eu aucune réponse. Après, les dates de clôture sont assez loin avant les dates d'audience. Et si j'ai écrit après, c'était trop tard. Il y a des dates de clôture pour rédiger les conclusions. Mais moi, j'ignorais tout de ça. Et ça, c'est quand même pas ma faute. C'est aux avocats de nous l'enseigner. Et ils ont un devoir de conseil, ce que tout le monde peut comprendre.
Or,
la première avocate n'avait rien fait de ça. Donc, en fait, on m'a mis sur le dos des indemnités d'occupation que je ne devais pas, puisque la juge de première instance n'en avait pas prévu. Et on m'a foutu à la porte avec la formule exécutoire. Hein, la force publique peut être appelée, tous huissiers de France, etc. peuvent demander le concours de... Et au final, moi, je voulais faire opposition car n'étant ni citée ni présente pour en cassation pour erreur de droit, puisque les droits de la défense ne sont pas respectés, ce n'est pas un procès, puisque un procès, ça veut bien dire qu'il y a une dialectique, que chacun donne ses arguments, sinon il n'y a pas de procès. Même dans la Grèce de Platon, je pense que les procès se passaient comme ça. De toute éternité, ça se passe comme ça. Ou alors, ce n'est pas un procès. On est sous Staline ou voilà, au Comintern. Comintern, c'était l'exécutif, n'importe quoi. Bon. Donc, ce truc-là, moi, je voulais faire ces démarches pour parer à son exécution. L'avocate que j'ai rencontrée m'a dit, vous savez, l'opposition n'existe plus depuis 2019. Et puis, la cassation, je vous la déconseille. Il faut que vous vous rendiez à Paris. Je sais que c'est complètement faux. Il suffit de prendre attache avec un avocat près la Cour de cassation à Paris. Mais il y avait déjà mis en œuvre et déployé un harcèlement de voisinage, d'autres voisins qui venaient d'être installés par ma propriétaire, qui ont commencé cette fois à me casser la figure, à peindre la porte en rouge sang, foutre les boîtes aux lettres en l'air, à venir taper dans ma porte avec des objets contondants, des poings américains. 4 personnes, jeunes, vigoureuses. Et moi, j'ai commencé à avoir vraiment peur de me faire liquider, de me faire tuer. Je n'osais pas sortir de chez moi. Les gens qui venaient me prêter assistance, me voir, etc., qui sont des gens gentils, moi, je fréquente pas de salopards, j'ai pas. Bon. Se faisait dégager, aller le vieux fout le camp, etc. Et j'ai eu plusieurs violations de domicile, agression physique très grave, collée au sol, le poing sur la figure, un autre coup de poing et la police qui arrivait, qui retirait tout élément probant et accablant contre ces personnes, séance tenante. Par exemple, j'avais décollé d'une porte d'une des voisines agressives. Oui, nous travaillons pour monsieur et madame Truc, etc. Tout ça a été... je le montre bêtement à la police. La police m'a arraché le truc des mains, ne m'a prêté aucune assistance. Et j'ai eu une perte de connaissance lors de la dernière agression. Je ne savais même pas qui avait tapé. Je me suis relevée, il y a du sang qui coulait en abondance du nez, de la mâchoire, etc. Et là, j'ai décidé qu'il fallait vraiment aller à l'hôpital. Mais j'ai lutté comme une malade jusqu'au bout, quoi. Et du coup, je ne m'occupais plus de ma procédure et j'ai laissé passer les délais. Et si vous laissez passer les délais d'appel, d'opposition, etc., de pourvoi en cassation et compagnie, que se passe-t-il? La chose est jugée, hein, comme on dit en droit, et vous n'y pouvez plus rien, sauf à agir de manière détournée contre cette chose jugée en attaquant le propriétaire pour des infractions qui sont connexes à cet arrêt totalement scélérat. Et une fois que vous êtes là-dedans, on va dire que c'est mort, parce que l'huissier va dire « moi je m'en fous, j'ai un titre ». Et j'ai la formule exécutoire, je peux m'amener avec la force publique, je suis tout à fait fondée à le faire. Alors après, il y a eu la trêve hivernale, j'ai eu une avocate qui m'a dit on va vous protéger avec la trêve hivernale, pas de problème, on fait telle démarche auprès du Premier Président, il va mettre 6 semaines à répondre, et du coup vous serez protégée. Je sais très bien que le gars il ne met pas 6 semaines à répondre, il met 1 mois, donc j'ai changé d'avocate, je dis maintenant vous allez vous faire voir, je prends quelqu'un d'autre. Donc, du coup, ça a reporté au mois de novembre ces procédures. On était dans la trêve hivernale. Pour moi, c'était devenu presque un jeu. Je savais que j'étais en danger de me faire foutre à la porte et qu'il fallait au moins utiliser cette trêve hivernale pour foutre le camp. Sortir de cette nasse, de cet arrêt qui est autour de moi. Mais là, des mesures ont été prises par le procureur de Reims pour me protéger. Il y a eu des mesures de protection. Ces gens n'ont pas le droit de m'approcher à moins de je ne sais pas combien de mètres. Ils n'ont absolument pas le droit de m'approcher. Mais ça, je l'ai su a posteriori. Donc, je continue à avoir peur. Et pendant l'hiver, j'étais extrêmement traumatisée par ces violences. Qui était vraiment, parce que moi j'ai eu un mari violent, j'ai eu beaucoup de violence dans ma vie.
Vous avez porté plainte au moins, Françoise, ou pas ?
Oui, j'ai porté plainte, il y a eu des interpellations.
Ah d'accord, ok.
Voilà, par contre, encore une fois, qui prend ? Ce sont ceux qui ont fait le boulot, mais pas ceux qui ont commandité. Et, alors que n'importe quelle écoute téléphonique, n'importe quelle enquête, même faite par un bras cassé, aurait mis en évidence le fait que c'était la propriétaire qui était l'artisane de tout ça. Elle et son mari, qui n'a même rien à voir dans l'affaire, puisque ma bailleuse, c'est elle, c'est un de ses biens propres. Donc j'ai été vraiment terrorisée par ce qui m'est arrivé. C'était vraiment un état de terreur. Voilà. Et la terreur fait que vous n'économisez pas, que vous ne travaillez plus, que vous perdez surtout la notion du temps et que vous n'avez plus beaucoup de repères. Si vous perdez la notion du temps, déjà, c'est le principal repère qui fout le camp. Et donc, moi, je me suis vue au mois de janvier à me dire, bon, j'ai encore 2 mois avant le mois d'avril, j'aurai l'argent, pas de souci, je vais me trouver un appartement. N'importe qui trouve des appartements, on n'est pas plus bête que ça. Et en fait, j'ai attendu d'être dans la bétaillère pour aller à l'abattoir, sans même savoir pourquoi. J'ai été cassée psychologiquement. C'est cette casse psychologique qui a empêché tout. Alors, ce que j'ai empêché, c'est les saisies et...
Ah, on a été coupé. Bon, écoutez, on va écouter un peu de musique et peut-être essayer de voir si nous récupérons Françoise. Autrement, on passera à autre chose. À tout de suite. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants ? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.